Entre 1h et 6h du matin, les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. L'écrivain suisse francophone Maurice Chappaz est mort le 16 janvier dernier. Paysan, poète, grand lecteur, grand voyageur vers l'Orient, amoureux de la nature, Maurice Chappaz avait accordé en 1994 un entretien à France Culture pour Portrait sans pareil, au micro de Geneviève Ladoès. Voici ce Portrait sans pareil, enregistré, entre autres, dans la vieille maison familiale de Chables. Maurice Chappaz, écrivain suisse francophone.
Notre vie, dit-il, est le pays où l'on n'arrive jamais.
Il y a encore des vieilles granges, là, ici.
Oui, il y a encore la plupart de ces granges, après, sur le mot, il y a des maisons d'habitation.
En fait, le vieux village, il est de ce côté-ci, du torrent.
Ah, il était...
Des deux côtés de part et d'autre.
Il était par et d'autre, c'était d'autres parties. Le Chable, c'était ici, Villette, c'était là, le Cotterche. Mais vous voyez, avant, ça faisait des petits unis, oui, séparés. Puis maintenant, les maisons unissent toutes ces parties, on ne les distingue plus.
Maurice Chappaz se dit volontiers nomade. Il aime l'errance, l'aventure, les demeures multiples. Mais c'est dans la vieille maison familiale de Chables, on l'appelle l'abbaye de Chables, que nous rencontrons ce chasseur et notre entrevue va commencer devant un verre de vin de sa vigne. Tout à l'heure, nous marcherons avec lui dans la vallée et il nous racontera les longues courses dans la montagne, la drôle de guerre des Suisses veillant dans la neige sur leurs frontières, la construction du barrage de la Grande Dixence, une épopée moderne, et la longue correspondance avec Gustave Roude, figure tutélaire des lettres suisses. Il y a chez Chappaz une même avidité terrienne face à la mort et face à la vie. Et c'est ainsi que nous pouvons saisir son rapport privilégié à la nature et aux racines. Maurice Chappaz, poète et pamphlétaire valaisan, né en 1916, un homme doué d'une forte parole, un écrivain singulier, un homme pour lequel l'écriture était la tentative de retrouver le plaisir des fruits de son enfance, pour lequel les marches dans la montagne, le bruit des eaux, l'odeur des herbes, était bonheur sensuel et aussi recherche d'un paradis perdu. Terrien, il l'est, Maurice Chappaz, et conteur aussi, l'œil pétillant et noir, la moustache drue, solide et vrai, sincère.
Donc là, les vaches s'entraînent,
s'échauffent.
Ah, on les voit bien, il y en a deux bicolores en train de se battre, là, elles s'affrontent.
Oui.
Puis les deux noirs, ça y est, s'y sont mises aussi.
Et alors, à la montée à l'alpage, toutes essayent pour voir laquelle sera la plus forte de toutes sur un troupeau d'une centaine.
Et comme ça, dès le printemps, on les laisse s'entraîner, on les...
Ah ouais, c'est tout naturel, pas. C'est, disons, dans leurs mœurs, dans leurs habitudes. Il y en a qui ont déjà eu plusieurs veaux, qui sont âgés, puis il y en a d'autres, on les voit avec les têtes fines. On les voit à la musculature. Il y a les veaux, vous voyez, tout petits, les veaux. Il y a là-bas, celle qui est toute noire, c'est une génisse. Les deux qui se battent là-bas, c'est des jeunes vaches. J'aime pas.
Elle a fait dévaler sa copine
très
vite. Ce qui est étonnant, ce sont les gens qui sont là et qui regardent.
Ah, ils aiment ça, ils aiment. Ils n'ont plus de bétail, il n'y en a plus que quelques-uns. Ceux qui ont le bétail ici, justement, le patron, c'est celui qui a la casquette rouge, son fils, qui a aussi le chapeau un peu rouge, c'est des bouchers. Alors ils ont le bétail aussi parce qu'ils gagnent, ils gagnent beaucoup avec le bétail.
Ah, ils sont à la fois éleveurs, maquignons, bouchers.
Bouchers, oui. Alors ils sont passionnés pour avoir des rennes.
On peut acheter une renne?
Oui, mais disons, par exemple, celui qui est là a eu la reine Campomale. C'est-à-dire de tous les troupeaux du Valais sélectionnés les unes après les autres dans des matchs, il a eu une année la reine. Alors on lui a offert 30 000 francs suisses. Et alors ils hésitent à vendre parce qu'ils ont les petites, cette vache. Alors des fois ils ne les vendent pas, puis ensuite la vache casse une corde, perd. Tout arrive, mais il a eu une fois la reine, et je sais qu'on lui en a offert pour 30 000 francs.
Suisse.
Suisse. Autrement, une vache peut valoir 2 ou 3 000 francs. Alors quand même 2 ou 3 000. J'ai été à pied des Molènes à Étroubes, sur Ost, par les glaciers et les alpages. Et j'ai vu deux lacs, un lac blanc et un lac bleu, l'un à côté de l'autre. L'un aveugle, de cette couleur de menthe, de gravier, de moraine. L'autre limpide, transparent, le bleu comme le feu des rochers, chacun plus beau à cause de l'autre. Quand le lac aveugle bougeait, c'était émouvant comme une bête, parce qu'elles n'ont pas d'âme. C'est bon, c'est jamais trop chaud.
C'est marche, encore un autre jardin. Oui. Des pâquerettes, des myosotis. Oui. C'est l'herbe belle hein, en cette saison.
Voilà. Vous voyez, c'est hyper assez frais. Alors, je vais prendre un apéritif.
Quelle odeur, quel parfum. Ça, c'est de l'arvine.
Oui, c'est de l'arvine. Oui, j'ai une de ces... Eux, ils ont de l'hermitage de mes vignes, qui a 70 ans, et j'ai de l'arvine de mes vignes, qui a aussi... Dans ma vigne, il y a aussi cet âge. Je vais lire où c'est.
Les clèves, vous voulez que je vous lise les clèves?
Oui, les clèves, c'est dans mes vignes.
Ce sont vos vignes, celles-là. Et alors, Arvine, première neige, voilà. Le petit rein du museau d'en bas. Oh, c'est beau ça, le museau d'en bas. À Maurice Chapa. Elle est belle cette bouteille.
Voilà.
Dites, c'est le fromage qui va avec le vin? Qui est pendu à cette clé?
Alors,
à la grosse poutre?
Non, pas, c'est du fromage d'alpage. Alors, on peut le trouver que pendant 2 mois. Alors, je n'achète pas de fromage pendant l'année. J'achète plusieurs pièces.
1, 2, 3, 4.
Celles-ci sont un peu plus vieilles. Et puis, on peut d'ailleurs goûter celle-là.
Il a l'air beau.
Oui, prenez-la seulement. On pourra la goûter. Mmh. Oh ben, on va la goûter en haut. Laissez seulement le couteau.
On va remonter, vous laissez ici le couteau.
Alors, attendez, la bouteille que j'avais dans les mains.
De Petite Arvine, première neige.
Première neige, oui.
C'est beau ça. Petite Arvine, première neige.
Oui, alors elle est, disons, c'est un des meilleurs vins que j'ai. Voilà, passez seulement, je le fermerai. Attendez, je la tiens.
Vous voulez que je vous tienne quelque chose?
Voilà. Parce qu'il ne faut pas les bouger, s'il vous plaît, il ne faut pas les bouger parce que, disons, elles peuvent avoir un tout petit dépôt.
qu'à couper les petites lamelles.
Je coupe des petites lamelles.
Oui, il n'y a qu'à couper les petites lamelles et on goûte avec le vin.
Parfait. Voilà.
Et puis je vais ouvrir la bouteille.
Oh, il est temps là encore, ce fromage.
Oui,
il date de quand de cet été?
Il date de l'été passé, mais d'alpage. Donc, attendez.
À quelle altitude sont les alpages?
Ah, les alpages vont jusqu'à à, donc, 2000 mètres à 2800. Les derniers, oui, au-dessus de 2000 mètres. Mmh. Et puis, enfin, ils descendent des fois jusqu'à 1800 mètres.
Vous y montez encore aux alpages?
Disons jusqu'à... Oui, j'ai encore... Ça, c'est pas inatteignable pour moi, les alpages.
Quel nom vous lui donnez à ce fromage?
Fromage de Bagne.
De Bagne, tout simplement.
Bah, alors, ah, on peut lui donner...
Qu'il a été récolté en octobre, fin octobre, novembre.
Prenez les petites lamelles.
Il est très doux, mais pas trop sucré.
Pas trop sucré.
Hein, c'est
non.
Ça, voilà.
Non, mais c'est le sucre du raisin. Voilà,
il a cette douceur comme ça. Ici tout à l'heure, dans cette grande pièce, c'est une pièce, un vestibule, on ne sait pas trop tellement c'est grand, oui. Et long, bien plus long que large. Moi j'ai eu l'impression d'entrer presque dans un autre siècle.
Oui, c'est bien, mettons dans un autre siècle, n'est-ce pas ? Donc elle date de 1646, elle s'appelle l'abbaye parce que c'était la résidence d'été de l'abbé de Saint-Maurice. Ou qu'il y a une abbaye à Saint-Maurice avec maintenant un collège, n'est-ce pas ? Et qui était le seigneur temporel de la vallée de Bagne, n'est-ce pas ? Le vallée était savoyard à un moment donné, enfin une partie du vallée était savoyard, à peu près jusqu'aux abords de Sion, et la vallée de Bagne a été vendue par le duc de Savoie à l'abbé de Saint-Maurice contre une table d'argent, n'est-ce pas ? Parce qu'il partait en croisade pour payer le voyage. Il a vendu l'abbaye, alors jusqu'à la Révolution française, le seigneur temporel était l'abbé de Saint-Maurice. Puis ensuite, alors, ça a passé en main laïque, et mon grand-père, du côté de ma mère, a acquis cet étage vers les années 65-70. Il a acquis cet étage
du siècle passé.
Du siècle passé, oui. Alors ça a passé à lui, ça a passé ensuite à ses enfants, en prof à mon oncle. Alors, mon oncle a été conseiller d'État en Valais, c'est-à-dire un des cinq dirigeants de ce canton pendant 40 ans. Les gens s'impatientaient ou qui meurent ou qui quittent pour pouvoir voter pour quelqu'un d'autre. Bon. Il avait 20 ans, à 60 ans, il devait encore voter pour lui. Bon. Enfin, voilà. Oui. Oui, c'est-à-dire, oui, j'ai laissé à cet intérieur.
C'est lui qu'on voit là.
C'est lui qu'on voit là.
Entre...
Et les autres possesseurs, on les voit aussi sur les, sur les, sur ces autres tableaux.
Vous avez comme ça, sur ces murs, une belle alternance de cornes, oui, et de têtes d'animaux, oui, et de personnages de la famille.
Oui, 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 mon oncle était chasseur.
Vous les mettez tous à égalité.
Ah, écoutez, vous savez, on peut, les bêtes sont très symboliques, pas.
Vous avez chassé avec votre oncle ?
J'ai chassé avec lui, oui, pendant plusieurs années, puis j'ai arrêté de chasser au moment où, la, où les chasseurs ont tellement augmenté qu'on devait en somme se grouper pour chasser. On ne pouvait plus partir à deux ou trois pour chasser. Alors on devait s'organiser presque comme au service militaire pour ne pas se gêner les uns les autres. Alors ça devient, disons, moins intéressant.
Ça vous rappelait vos années militaires, vos mois militaires, vos semaines militaires.
Moins bien encore, parce que mes mois militaires, en partie, pas totalement, en partie je les ai passés dans des, j'ai eu la chance de les passer dans des postes perdus, n'est-ce pas ? Et au moment où... disons, où la civilisation s'était arrêtée, il n'y avait encore pas de route, il n'y avait pas trop de choses, on était des fois au fond de vallée, on n'était plus libre à un moment donné au service militaire qu'après. En somme, pour moi, la vraie guerre, celle du progrès, a commencé en 1945. L'occupation a commencé en 1945.
Quand la civilisation mécanique est arrivée dans les vallées.
Quand disons, les bulldozers, tout est arrivé, n'est-ce pas, pour tout écraser et pour élever des immeubles partout.
Est-ce que nous aurons l'autorisation, Maurice Chapaz, de visiter votre maison sous votre
conduite ? Oui, avec plaisir. Vous pouvez, je suis prêt à ce que vous me suiviez. Voilà. Avec ces murs épais qui est assez sombre, de façon qu'on a, je dois même avoir la lumière en plein midi en été si je veux travailler, même de là. Alors ici c'était une chambre où on mangeait, avant c'était ce qu'on appelait la salle à manger, qui est devenue, disons, l'endroit où je travaille.
C'est pour ça qu'il y a toutes ces boiseries sur les murs.
Alors ces boiseries, n'est pas...
On est dans le bois ici.
On est dans le bois, vous voyez, comme bois c'est du mélèze.
Oui. D'où cette teinte un peu rouge.
D'où cette teinte un peu rouge. Maintenant, de quand croyez-vous que date ce plafond ?
Il me semble neuf, ou presque neuf.
Eh bien, écoutez, je l'ai vu bâtir par un petit menuisier italien quand j'avais 5 ans.
Mais vous avez bien entendu, et alors, ce qui nous, Français, nous étonne, c'est ce poil de pierre, de pierre sculptée.
Disons, maintenant... disons, vers la fin de sa vie, mon oncle avait mettre, disons, le chauffage central, le chauffage avec des radiateurs. Mais avant, je chauffais toujours uniquement avec le bois. Moi-même, je me suis chauffé longtemps avec le bois. Et quand j'ai dit que c'était l'abbaye de Saint-Maurice, vous avez ici la croix de Saint-Maurice. Et vous avez ici la mitre de l'évêque de Saint-Maurice.
La crosse.
La crosse et la mitre. Et voilà les croix de Saint-Maurice, l'abbaye de Saint-Maurice. Alors certains tableaux sont les tableaux de mon beau-père, le peintre Edmond Bi, le père de Corinna Bi, et puis il y a des sous-verts qui sont les anciens, ces petites figures saintes que les colporteurs... les colporteurs vendaient, n'est-ce pas, quand tout le monde voyageait à pied, et c'était les peintres naïfs autrichiens qui les ont faites au Tyrol, ça vient probablement du Tyrol, les noms sont encore en allemand.
Saint-Joseph, Jésus et Jésus encore.
Oui.
Et ça, c'est important pour vous que de travailler comme ça au milieu de tous ces... C'est plus que des souvenirs de famille, on a l'impression que rien n'a été changé, bougé. Vous avez la collection des pots d'étain derrière vous sur le buffet.
Oui, c'est
les bouteilles dans un coin. Oui. Il y a une sorte de mélange curieux comme ça, effectivement, de salle à manger, de table de travail.
Oui, oui, parce qu'ici, n'est-ce pas, si
la soupière en face.
Joue,
ah, vous avez encore, oui,
tout à l'heure. Oui, j'ai dû la garder. Je me suis mis ici, pourquoi ? Parce que c'était la pièce où il y avait le moins de bruit. Mais je garde les fenêtres même fermées à cause du bruit. Puis j'ai ces sapins. J'ai ces grands sapins qui ont été qui ont été plantées par mon grand-père.
Nous, on est très au-dessus de la Drance. Hein,
vous voyez, tu joues
la double fenêtre.
Voilà, voilà la Drance.
La Drance et le bruit de la circulation.
Oui, maintenant ça va encore. Mais avant, disons, on entendait, j'aimais beaucoup ouvrir la fenêtre, on entendait que la grande rumeur des eaux et la Drance était plus forte puisqu'il n'y avait pas de barrage. Oui, alors maintenant c'est quand même les autos qui couvrent tout. Alors voilà, là était l'écurie et là la grange, et là où on mettait le foin.
Mmh, on est haut là, hein?
On est haut.
Mmh. Et vous aviez non seulement la rumeur de la Drance, mais la rumeur du vent dans les arbres.
Du vent, oui. Là,
et la montagne de l'autre côté.
Et la montagne. Là on avait les bruits de la nature avant. Maintenant on a ces bruits. Disons, de la civilisation industrielle qui est terrible.
Je
vais refermer
une fenêtre.
Ah oui, alors je n'ouvre les fenêtres que pour aérer. Hein. Alors les murs sont épais.
Toutes ces épaisseurs. Ils font au moins 60 centimètres.
C'est partout, c'est épaisseur. Bon, c'est les murs.
Vous vivez dans les pensées qui craquent.
Alors, je vis au milieu de livres, de carton, de bouteilles, de papier, submergé aussi par courrier. Quand submergé par courrier, si vous pensez que c'est plein, simplement cette boîte est pleine de 2 mois de courrier.
J'aime bien quand vous cachez le courrier derrière la porte.
Allez, oui, je jette là. Alors ici, on est dans la pièce, n'est pas, disons, qui est un vestibule, mais qu'on appelait simplement le corridor. Et, disons, quand partit mon oncle et moi-même, j'ai boisé. Avant, il n'était pas boisé. J'ai dû le boiser pour avoir des rayons pour mettre des livres. D'ailleurs, vous verrez, si on parcourt la maison, les livres ont envahi toute la maison. Bon, alors, j'en ai venu. Un peu plus clair. Parce que c'était la chambre de l'évêque.
Et on entre par cette petite
et
porte.
Alors on entre par cette porte. Alors évidemment la chambre a été bien transformée et les livres continuent d'envahir la maison. Les buffets sont pleins de livres, les chaises, les tables sont encombrées.
Le livre,
de livres. Et puis malheureusement, la bureaucratie m'impose à chasser des papiers parce que les affaires se poursuivent pendant des années et je dois pouvoir me retrouver pour telle ou telle chose là. Les livres sont partout.
Cette chambre est très belle parce que là, en fin de journée, elle est ouverte sur les autres versants de la montagne qui sont éclairés par le soleil.
Elle est ouverte sur le côté ensoleillé.
Elle est en plein soleil.
Elle est en plein soleil. Et alors c'était là où, disons, anciennement dans cette chambre, disons, il y avait ce lit, et ici il y avait un autre lit, c'était où dormaient mes deux tantes qui sont mortes à 95 ans et à 92 ans. Et alors j'ai porté un lit dans une autre pièce où je me suis installé. Et puis c'est devenu une bibliothèque. Et vous voyez, ces petits oiseaux ont été sculptés par un berger. Et c'est sur deux de ces petits oiseaux que Rilke a fait des poèmes. Rilke a fait deux poèmes sur un merle et sur une grive. Sur ces petits oiseaux.
Mais quand les a-t-il vus, ces oiseaux, Rilke?
Ces oiseaux, il les a vus parce que un ami de Montet qui s'appelle le docteur Conta était un ami de Rilke et était le protecteur de ce petit berger.
Vous pensez que c'est quand il était dans les alpages, l'été, qu'il a...
Partout, toute sa vie. Ce que je sais, c'est qu'il a sculpté toute sa vie. Ensuite, on l'appelait, les paysans l'appelaient pour lui faire sculpter leurs animaux préférés. Ils sculptaient par exemple les vaches. Quand quelqu'un avait une vache ou un cheval qu'il aimait beaucoup, il appelait cet homme qui était devenu un paysan, qui est mort, il l'appelait et il lui disait sculpter.
Ouais. Qu'est-ce qu'on peut reconnaître comme oiseau?
Alors, vous voyez, il y a le merle, le merle à plastron, avec le collier blanc, le merle à plastron. Voilà le rouge-gorge. Voilà, disons, la lavandière, la bergeronnette lavandière, celle qui est.
Avec sa longue queue.
Avec sa longue queue, n'aime pas. Voilà le petit roitelet, vous voyez.
Tout rond.
Tout rond, vous voyez, voilà le petit roitelet, vous voyez.
Et
voilà ma tante qui est morte à 95 ans. Donc je parle dans une lettre qui est morte ici dans cette pièce.
Vous en parlez beaucoup de cette tante.
Oui, parce que je sais pas, elle a vécu.
Vous l'avez accompagnée jusqu'au dernier moment.
Jusqu'au dernier moment, elle a vécu. Je sais pas, disons, quand moi j'avais une année, comme je suis né pendant la guerre en 16, et qu'on manquait de lait dans les petites villes à Martigny, on m'a mis en pension ici. Et alors, disons, quand je crie, pendant l'année, quand je ne pouvais pas dormir et que je criais, ma tante me prenait, elle me promenait dans le corridor, ici. Et c'est ce que je lui ai rappelé au moment où elle est morte, c'est ce que je lui ai rappelé. Et c'est à ce moment-là qu'elle a eu un regard tellement beau, extraordinaire, d'une telle fulgurance de bleu, que il y avait une servante et ma sœur qui étaient là, ont presque eu peur, et puis je leur ai fait signe de partir. Quand je lui ai rappelé ça, il y a eu un éclat, alors que ses yeux étaient voilés, brouillés et grisés et voilés, ils sont éclaircis à ce moment-là. Je la tiens dans mes bras, je lui ai rappelé ça, et il y a eu un éclat extrêmement violent, bleu, et je ne me rappelle plus qui, des gens qui pratiquaient l'hindouisme ont dit que c'était alors une espèce de vision qui pouvait exister, qu'on connaissait aux Indes, qui est arrivée au moment de sa mort.
Vous pensez que c'était un dernier grand bonheur qu'elle pouvait avoir avec ce souvenir de vous, petit, qu'elle prenait dans ses bras?
Écoutez, après ça, je savais que ma tante devait mourir, et j'étais envahi de bonheur. J'aurais bien voulu qu'elle vive, mais disons, je savais bien que la vie est une cime, qu'elle doit se terminer. J'ai été très heureux. Je dois dire, j'ai été heureux.
D'autres. Ça s'est passé dans cette chambre?
Ça s'est passé. Oui, elle était dans ce lit-là. Elle était là. Et eux, ceux qui ont vu, qui ont même été effrayés, étaient vers cette porte. Ils venaient depuis la cuisine avec une tasse de thé parce qu'on lui donnait à boire avec des cuillères à la bouche pour pas qu'elle se dessèche. Et puis alors, les autres, voilà ma mère et mon père, par exemple.
Photographie.
Voilà ma mère et mon père. Et alors, si je vous ai parlé de la banque, ce qui reste encore, c'est ceci. Vous voyez, j'ai boisé cette porte pour la sortir, disons, aux autres meubles. Mais, en somme, avant, cette boiserie de noyer n'existait pas. Mais voilà la porte de fer.
Ah oui, avec le guichet.
Avec le guichet. Et je vous montrerai en haut, parce que ça vaut la peine d'aller voir quand on ira au Galta, je vous montrerai le coffre-fort et le pupitre.
Voilà. Comment ça. Avec 5 alors, francs prêtés, on devient banquier avec une porte en fer?
Et alors, quand j'étais enfant, il y avait des bancs ici, et les gens entraient, s'asseyaient, et venaient frapper ici à la banque, et là c'était la banque, une petite banque. Et ça a été une petite banque ici, et avant d'être une banque, pourquoi est-ce que cette petite pièce existait? Eh bien, avant d'être une banque, c'était la chapelle. C'était la chapelle de l'évêque. Si vous regardez si vous entrez dans la cour, vous voyez cette petite pièce qui s'avance. Ça, c'était la chapelle de l'évêque. Alors, de chapelle, c'est devenu une banque. Et de banque, c'est devenu, en somme, un petit endroit de secrétariat pour moi.
avec, disons, l'inévitable photocopie, et puis tous ces cartons, on le voit. Eh bien, tous ces cartons, pendant 10 ans, j'ai tenu un journal jour par jour, et voilà, ces 400 000 pages sont là.
Qu'est-ce que vous allez en faire de ce journal? Eh bien, vous avez l'intention de le laisser dormir dans des cartons?
Écoutez, il faudrait que j'ai de temps en temps, j'en ai sorti, parce que comme je l'ai écrit jour par jour, je l'ai écrit spontanément, extrêmement vite, pour le publier, sauf certains passages, il faudrait pouvoir, ce qu'on appelle, comme on a fait une lettre, c'est comme un brouillon de lettres, il faudrait remettre un peu au propre. Il y a des choses qui vont. J'ai publié quelques extraits de ça.
Qu'est-ce que vous racontiez dans ce journal? Parce que par exemple.
Je notais jour par jour ce qui m'arrivait. Je voulais voir où passait la vie d'un homme. Alors, pour savoir en quoi consistait la vie d'un homme, je me suis dit, je noterai mes impressions, l'événement, quel qu'il soit, le temps qu'il fait. Ce que j'ai vu, une conversation, et je me dirais, après, je pourrais me relire et je saurais ce que c'est cette vie d'un homme, mais pas qui passe si vite et qui dure si longtemps. Les années sont courtes et les jours sont longs. Mais j'ai arrêté d'écrire le journal parce qu'à un moment donné, ce journal a débordé et a proliféré. Et quand je me suis aperçu que pour écrire un jour, il m'aurait fallu 10 jours.
Ça veut dire qu'on est débordé par sa propre vie.
Et ce qui veut dire qu'en somme, ce qui se passe en nous, disons, a une intensité, un épanouissement, un élargissement, une chose inconnue qu'on oublie et dont on ne s'en aperçoit qu'au moment où on essaye de s'en rappeler plus grand. C'est peut-être pour ça qu'on peut croire à un autre monde, on se rappellera cette vie. Il faudra presque une éternité pour restituer une vie d'homme.
Au début, vous aviez peur qu'elle vous file entre les doigts, cette vie?
Ah, j'ai toujours vu qu'elle me filait entre les doigts et qu'elle était en même temps extrêmement précieuse. C'est les deux sensations que j'ai eues. Et qu'elle pouvait toujours avoir nous donner l'impression d'être un sou qui ne valait rien et sur l'autre face une pièce d'or. Et que c'était comme ça qu'on vivait. Notre propre vie est, disons, à deux apparences. Une qui vaut rien, une monnaie usagée, hors d'usage, et une autre, une pièce d'or. Et elle nous file entre les doigts, et c'est avec cette petite pièce d'or et cette monnaie usagée, disons, qu'on achète peut-être quelque chose qui se passera beaucoup plus tard.
Voilà, une autre chambre qui est en face de l'autre.
Alors, que disons.
Elle est plus fraîche, celle-ci. Toute boisée encore, mais plus fraîche.
Oui, plus fraîche, écoutez, tout simplement parce que, disons, je ne l'ai pas chauffée.
Et qu'est-ce qu'on sent?
Alors,
une odeur.
Cette chambre était la chambre où je dormais avec ma femme qui était alors Corinna Bille. Elle et moi avons aménagé cette chambre qui devait être la sienne. Qui devait être la sienne et qui a été la sienne que pendant quelques mois, puisqu'après le grand voyage qu'on a fait, disons, avec le Transsibérien, en septembre 79, en été, on a aménagé cette chambre, en septembre 79, on a fait ce voyage, au retour du voyage, pour un malaise, elle a dû aller à l'hôpital, c'était le cancer, elle est restée 15 jours et ça a été fini, mais j'ai gardé la chambre telle qu'elle était, avec ses livres. Voilà encore ma femme. Et voilà ma mère quelques minutes après sa mort. Ça, c'est ma mère.
C'est vous qui l'avez photographiée?
C'est pas moi, c'est ma belle-sœur. Et puis voilà encore, disons, cette dame, c'est la même. Là, elle est en train de filer, là, son costume de paysan.
Et là, elle vient de se marier, elle a un autre costume.
Elle est déjà citadine, elle a ce bandeau dans les cheveux.
Oui,
aussi.
Mais elle est restée toujours. À la paysannerie est restée incrustée dans toutes les familles. Dès qu'elle avait eu lieu, elle durait. Et c'est elle qui a raconté tellement d'histoires, qui a fait que ma femme Corinna, qui est là, a écrit ce livre Théoda, qui a paru la première fois en 1944 et qui reparaît pour la cinquième fois en 1994. Donc j'irai au Salon du Livre 50 ans après.
Mmh. Elle était blonde, Corinna.
Elle était châtain. Mmh. Châtain, oui. Pas tout à fait blonde. Tirant sur le blond. Oui. Tirant sur le blond.
Ce qui est très extraordinaire dans cette maison Maurice Chapaz, c'est qu'on a l'impression que toutes les pièces, toutes et partout, les moindres recoins sont envahis par les livres.
Ah, écoutez, alors on va voir.
Les tables sont envahies par les livres. Les canapés, les chaises,
oui,
les fauteuils.
Et puis vous savez, j'en donne et j'en distribue.
Vous les ouvrez, vous les feuilletez, ces livres?
Les miens. Ah, c'est-à-dire, il m'arrive par exemple, là, il y a des guildes. Tout à coup, j'ai par exemple envie de retrouver tel livre que je n'ai pas lu. Alors je regarde, par exemple, je regarde tel livre que je n'ai pas lu, je le retrouve. Voilà, un livre que j'ai relu, par exemple, un livre, disons, qui avait plu à ma femme, que j'ai relu.
Nicolas Gogol.
Dans les livres qui sont là, tout d'un coup, il y a des livres que je connais bien, des fois que j'ai envie de relire, ou il y a un livre où je veux retrouver quelque chose.
Puis, en tout cas, vous avez des livres de toutes sortes et de toutes valeurs, puisque vous avez aussi bien ce livre dans la collection 10-18, qui voisine avec ce vieux Francis Carco des éditions Grasset, qui s'intitule « Envoûtement de Paris », avec 112 photos par René Jacques.
Oui, j'en avais des très beaux. J'avais un livre de Doineau sur Paris. Banlieue de Paris, il a disparu.
Mais il est peut-être là-dedans.
Non, il a disparu, j'ai cherché. C'est un livre qui a disparu, moi encore. Alors ça, c'était les livres, disons, qui étaient les lectures de ma femme. Il y a tous les journaux, tous les Proust, toute une série de contes, n'importe, et tous les Dostoïevski.
Ça, c'est la Guilde du Livre. Ça a été un moment important de l'édition en Suisse.
Très important.
La Guilde du Livre, oui, qui était éditée à Lausanne.
C'était à Lausanne.
Et qui était une sorte quoi de pas d'association.
C'est-à-dire c'était une sorte de club où en s'abonnant pour très peu de choses, on recevait 4 livres par an. Et celui qui était, disons, le parrain de ça, c'était Ramu. Et alors il y avait un éditeur très habile qui en comme une coopérative, ça fonctionnait. Vous voyez, là, voilà un livre qui a été ensuite réédité en France chez Gallimard de Corinna.
La fraise noire.
Oui.
Je vais le remettre là.
Oui, voilà.
Bien classé, bien serré. Ah, ça. Henri Pourrat, Julien Green, Max Frisch. Et puis Marcel Aimé, Jarry, ouais. Boris Vian et l'automne à Pékin. Alphonse Daudet et Sappho. Belle amie de Maupassant. Paulina, 1880, de Pierre-Jean Jouve.
Vous savez, c'est plein de livres.
Et le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, de Selma Lagerlöf, publié à Paris, librairie académique Perrin. Il n'est pas jeune, celui-là.
Oui, parce que, disons, c'était un des livres d'enfance de ma femme, Paulina.
Ah oui, mais regardez. Ah non, ça c'est sur Selma Lagerlöf.
Oui, probablement, mais je dois dire, il faudrait que je le prenne. Mais puis alors, mon beau-père était écrivain aussi, pas seulement peintre. Il y a toute une série de livres.
Mais il était écrivain de voyage, parce que je vois quelque chose qui s'intitule Cap Nord.
Écrivain de voyage et écrivain aussi. Attendez, est-ce que j'arrive à le remettre?
Oui.
Écrivain aussi, disons. Des notes sur le pays. Voilà, par exemple, les heures valaisannes, où il raconte, en somme. C'est des petits récits sur le valet tel qu'il l'a rencontré, tel qu'il a connu.
Voilà. Retour au village. Il a gardé à première vue sa silhouette familière, celle qui m'a paru un beau soir de juillet, voici déjà bien des années, à travers le voile fin des derniers mélèzes. Immuable comme les monts qui le dominent ou l'encadrent, il fait corps avec la montagne, paraît soudé au roc, comme la forêt d'Arol, semblable aussi à un troupeau de moutons noirs, immobiles, arrêtés sur les pentes d'un alpage.
Ah, il avait une plume! Oui, il avait une plume.
C'est comme ça que vous l'aimez, le Valais ? À travers la fine, le fin voile du feuillage des Mélèzes.
Oui, bien voilà le contraste.
Ces femmes assises pensives devant des cheminées d'usine.
Des cheminées de Chupis.
C'est le Valais en 1931.
Voilà.
Ce sont de belles gravures, avec un beau trait ferme.
Oui, oui, il y a des gravures très belles. Oui, c'est cette espèce de... voilà, c'est ce couple, disons, qui pourrait faire penser à la fuite en Égypte et qui est simplement les nomades d'Anivier qui passent d'un village à l'autre à chaque saison. Ils ont une maison selon l'altitude du plus haut village Chandolin à presque 2000 mètres jusqu'aux vignes à Sierre, à Murat. Et ils passent selon les saisons d'étape en étape à travers la montagne où il y a des petits hameaux et là ils sont en train de passer et en même temps ça fait comme disons le père, la mère et l'enfant
comme une fuite en Égypte.
Disons les gens vivaient bibliquement tous les les gestes de la vie étaient les gestes qu'on retrouve dans la Bible qui étaient faits tout naturellement inscrits dans la nature par le métier, par l'existence même.
Vous avez connu, vous, comme ça, cette transhumance ?
J'ai connu la fin. J'ai connu la fin de ces choses. J'ai connu, disons, ça a duré à peu près jusqu'à la guerre. Disons, je suis né en 16. Eh bien, ça a duré, disons, à peu près tel quel jusqu'en 39. Puis ensuite, il y a eu cette immobilisation de la guerre, où il y avait, d'ailleurs, cette série d'événements atroces et terribles autour de nous, et puis une sorte d'immobilité de la Suisse aux frontières où tout était arrêté et où c'était par un certain côté, même si ça pourrait choquer si je le dis, comme toute activité pratique était arrêtée, c'était comme pour moi, c'était des espèces de grandes vacances dans la servitude militaire. Avec le tragique qui pouvait percer. Ce tragique, c'était les réfugiés. Ça pouvait être aussi... on avait quand même le point d'interrogation à la NAF allemande. On avait tout d'un coup... On était soldats. Au milieu de la nuit, on était transportés à travers toute la Suisse, d'une frontière à l'autre. On se disait, c'est maintenant que ça va arriver. Et puis, rien ne s'est passé.
Et vous attendiez dans la neige, comme dans un roman de Julien Gracq. Comme dans un balcon en forêt, vous attendiez.
Oui, on attendait. On attendait et puis on oubliait. On comprend, à un moment donné, on vit comme dans un rêve. L'horreur est autour de nous, puis l'horreur n'est plus pensable. Ou bien surgit tout à coup, elle surgissait avec les réfugiés, ou qui auraient dû être accueillis d'une façon d'ailleurs beaucoup plus juste et généreuse qu'ils l'ont été. Non, pas juste, la vertu de la Suisse, c'est d'avoir dit non aux Allemands d'une façon véritable en étant mobilisés, ce qui était vrai, et le péché, disons, qu'elle a commis, c'était d'avoir mis des verrous à une porte qui aurait pu s'ouvrir pour les réfugiés d'une façon beaucoup plus large et beaucoup plus juste. Là, il y a eu, disons, ce serait le côté coupable et reconnu, d'ailleurs. Ils nous ont dénichés, expulsés de l'enfant, de la nature tout court, de l'invisible qui est en nous. Des foules de bêtes, d'oiseaux sont tombés malades et se taisent. Nous nous remémorons de minuscules gastronomies, comme des communions entre copains de poésie. Nous avons des bouches, des nez âmes. À la métaphysique, nous avons substitué la métacuisine. Mais l'esclavage est annoncé par les auberges rétamées et sinistres. Tel pain, mon vieux, telles idées. Et la seule conversation gratuite permise dans les lieux publics sera celle que les chiens peuvent comprendre. Vous avez des besoins ? Alors vous avez été voté. Oui, deux fois. Ces céréales et ces journaux sont diététiquement parfaits. Désirez-vous que je vous fasse les honneurs de risquer ? Une côtelette culturelle concerne un Chateaubriand au Museau de City. Je n'ai plus rien à fiche dans le progrès. Épicerie larve, épicerie église, épicerie armée des usiniers et des bureaucrates. Les pères regardaient leurs fils se sauver en vélomoteur avec un rouleau de hachis sur la selle, à la façon des uns, aux longs cheveux, inarrêtables, qui faisandaient entre leurs cuisses, sur le dos de leurs petits chevaux, un morceau de viande crue. Moi, ma brogue, c'est cet exhalé d'aimant qui m'a aspergé le visage à travers Babylone. Je me suis identifié aux sources alors que des légions de rats, à quatre et à deux pattes, sortent déjà d'entre les escaliers de l'hôtel de ville. Je ne suis plus que du passé errant, mais l'avenir est en moi grâce à la crise. Ils sont déjà battus. Quand je me bute aux pendouillards d'affaires de ma génération, les vainqueurs de ce monde, les vainqueurs, aveugles de la grande bouffe, athées en tout sans en avoir conscience, je soutiens leur morgue en sachant que j'aperçois les nazis au moment de Stalingrad. Ah, ce délicieux et terrible moment! Ce sera le retour au pays natal par le désert.
Mes amis, faites la révolution sans coup d'eau, les pieds nus dans une gare, en mendiant avec une musique à bouche, avec un bon coup et du soleil noir au bout de la plume. De l'encre qui éclairera le monde. J'ai toujours cru que la flûte chasserait les démons, détruirait un jour les usines, que toute la jeunesse dirait non, tribalement non.
Mes amis, faites la révolution sac au dos, les pieds nus dans une gare, en mendiant, avec une musique à bouche, avec un bambou et du soleil noir au bout de la plume, de l'encre qui éclairera le monde. J'ai toujours cru que la flûte chasserait les démons. Détruirait un jour les usines, que toute la jeunesse dirait non, tribalement non. Tout a pourri en dedans, une flûte qui chante donnera un coup de sang à ce pays prospère.
Vous avez rencontré Gustave Roud à quel moment ? C'était juste avant la guerre ?
Écoutez, je l'ai rencontré juste avant la guerre. C'était à l'occasion, disons, d'un concours. Une petite revue, la revue Suisse Romande, avait organisé un concours de nouvelles. Et, disons, j'ai envoyé alors un de mes récits, le premier que j'ai écrit, qui s'intitulait « L'homme qui vivait couché sur un banc ». Et il a été retenu, il y a eu trois textes qui ont été retenus, je n'ai pas eu le prix. Un des textes qui a eu le prix, c'était
un truc de C.F. Landry, un autre d'un autre écrivain très connu de Genève, et puis le troisième c'était Lumière. Bon, je n'avais signé qu'un prénom.
Quel prénom?
Pierre, parce que c'était l'homme qui devait coucher sur un banc et puis qui regardait vivre les cailloux. Donc j'avais signé de ce prénom, Pierre.
C'était déjà une sorte de refus, ça, de refus de la vie de tout le monde, vivre couché sur un banc en regardant les cailloux.
J'étais à l'université et je songeais à la quitter. Au banc de jury, il y avait Ramu et il y avait Roux. J'ai été ensuite voir Roux. Parce que, disons, déjà au collège, je connaissais ses livres, je connaissais ses poèmes, et puis son attitude de vivre dans la solitude, dans une ferme, au milieu des villages qui étaient encore de vrais villages, disons, en étendant autour de lui vraiment comme un lac de solitude, tout en recevant beaucoup d'amis, et vivant comme seule réalité terrestre l'expression poétique, la vie en poésie. Alors ça m'avait séduit. Et ça faisait pendant avec moi d'un autre être qui me séduisait beaucoup et qui vivait de la même réalité, mais d'une toute autre façon. C'était Charles-Albert Saint-Griard. Charles-Albert Saint-Griard vivait en vagabond, sur les routes, et pensant que la ville disait quitter la ville pour une autre. Chaque matin, il devait le trouver sous un autre buisson, un autre endroit. Il n'avait pas de logement, il logeait de temps en temps chez un ami, de temps en temps chez un autre. Et alors, j'avais l'image de l'ermite et j'avais l'image du vagabond. Et alors, pour moi, disons, j'étais très attaché à ces deux formes de vie que je considérais tout naturellement comme les meilleures par rapport au monde, pour se rencontrer soi-même et rencontrer le monde avec ses beautés diverses et multiples, avec cette espèce de miracle permanent qui est dans le quotidien et pour lequel il faut être tout à fait libre.
Mais vous aussi, toute votre vie, Maurice Chapaz, vous avez joué les vagabonds aussi. Quand on relit votre correspondance avec Roud, vous lui racontez vos traversées de montagne, vos longues heures comme ça, de marche, l'été, l'hiver, cette sorte de bonheur que vous aviez à marcher, tout simplement, à marcher, à franchir l'école, à aller dans la vallée d'à côté, à aller voir ailleurs si le monde est aussi beau.
Oui, c'est un besoin que j'avais. Mon père était avocat, mon oncle était un homme politique qui était avocat, mon grand-père était un homme politique aussi, qui était avocat, et j'étais destiné, avec toutes les pressions familiales possibles, à devenir juriste. Et ce qui m'a sauvé, ça a été la guerre. Parce que la mobilisation est arrivée, tout le monde a dû quitter son emploi, sa profession, son travail, pour partir dans une espèce de marginalité peut-être monstrueuse, extraordinaire et qui était, disons, la guerre sans guerre, puisqu'on était à côté. En somme, on a été condamné par la mobilisation à vivre un petit peu comme des contemplatifs, puisque, comme je ne m'adaptais pas à la vie sociale et que je pensais abandonner mes études, pour avoir quand même un moyen de défense, un moyen de justification, pas intérieur, j'en avais pas besoin, mais extérieur vis-à-vis des autres pour qu'on ne me presse pas trop, j'étais devenu officier. Et alors, la mobilisation signifiait pour moi, dans l'unité où j'étais, de camper tout le temps dans des postes isolés, pas même des villages, le fond des guérites d'alpage, sur les cols, dans les forêts. Vous avez été ce matin voir ce barrage, j'ai passé plusieurs mois à l'endroit même du barrage qui n'existait pas, où c'était vraiment la rivière qui coulait dans une espèce d'immense pleine, avec des blocs énormes qui surgissaient là-dedans, et un glacier qui sortait sa langue d'une gorge et qui était prêt à tomber. Et alors j'ai vécu comme ça. Et ensuite, je me suis marié, j'ai rencontré, pas tout de suite, disons, j'ai rencontré Corinna pendant cette époque, en 1942, et nous nous sommes déjà installés alors pour être, disons, justement dans, le plus indépendamment possible et le plus dans la nature possible et le plus proche de la vie que j'aimais. Nous sommes installés dans un hameau de 3 ou 4 granges et maisons sur le Haut-Rhône, au-delà de Raronne. Alors, après la guerre finie, les questions matérielles d'entretien d'une famille, j'avais un enfant, j'en ai eu assez vite un deuxième. Corinna Bi écrivait et j'ai essayé de vivre en vagabond, de gagner ma vie avec ma femme par quelques articles, quelques services que je rendais à mon oncle qui avait une campagne dont il ne pouvait pas s'occuper puisqu'il était pris par des postes politiques à Berne et à Sion. Mais c'était très difficile. Alors l'angoisse est venue toujours plus forte en me réveillant chaque matin. Parce que, disons, c'était un porte-à-faux. Je ne gagnais pas vraiment ma vie, j'écrivais des poèmes qui, pour lesquels, si je voulais les amener à terme, j'avais peut-être besoin de plusieurs années simplement pour écrire un poème. Il fallait qu'il naisse en moi. Et alors, quand l'angoisse revenait très forte de cette situation, je partais dans la montagne, je traversais les vallées, je faisais des courses, et cela m'apaisait. Je revenais avec une très grande énergie, et dès que l'angoisse recommençait, je repartais. J'ai pu vivre pendant une dizaine d'années sous cette forme, jusqu'à ce qu'ensuite, tout est devenu tellement tangent en se durcissant. Non seulement j'avais 2 enfants, j'en ai eu 3, même pas. Et Corinna Bi écrivait jour et nuit, je puis le dire, faisant des tâches même alimentaires, c'est-à-dire des articles pour des journaux, afin qu'on ait 20 ou 30 francs par semaine qui nous tombent. Et alors j'ai été à la Grande Vixange.
C'est après donc avoir écrit le testament du Haut-Rhône.
C'est après avoir écrit le testament du Haut-Rhône.
Vous pouvez juste nous dire un petit mot de ce testament du Haut-Rhône?
N'est-ce pas? Je dirais, pour bien le situer, je vais dire qu'il a été précédé de 2 autres livres. D'abord, quand aucun problème ne se posait, que le simple problème c'était que ferais-je de ma vie si je devais mourir dans l'année, et que ma réponse était j'écrirai un poème, j'ai écrit 3 grandes louanges qui pouvaient être Verdure de la nuit, La merveille de la femme, Terre de part.
C'est là que l'on retrouve ce plaisir des fruits, ce bonheur, cette sensualité, voilà. Cette gourmandise qui vous a amené en partie à l'écriture.
Oui, on mange les fruits du paradis et on les traduit tout naturellement en respirant, en parlant, en criant. On a un moment dans sa vie où on écrit comme les oiseaux chantent. Ils chantent sans question, ils chantent parce qu'ils sont le ciel bleu en même temps qu'ils volent. Alors il y a eu ça. Et un autre livre a suivi, Les grandes journées de printemps, où je relatais cette expérience de vagabondage et ma rencontre avec Corinna. Et ensuite, j'ai bien vu la guerre finie, l'installation des hommes dans ce qu'on appelle la vie pratique, la vie concrète, la vie utile. Et cette installation-là progressait à grands pas. On sortait même tout de suite de l'ancienne vie paysanne où les choses se passaient d'une façon presque indiscernable, tellement j'étais en accord avec la nature. On passait dans un monde du progrès. Et ce monde du progrès allait détruire ce qui était ma raison d'être, ce qui était un ancien pays qui, peut-être parce que je n'en souffrais pas et que je n'étais pas astreint à la servitude d'un valet de ferme, à la servitude d'un ouvrier qui était pour moi un paradis, et je voyais ce monde s'évanouir sous mes yeux, les routes se faire, les tracteurs, les machines remplacer tous les instruments, dans les professions même, les rapports humains devenir bureaucratiques, tout n'était vu que sous l'angle de l'utile. Le Rhône, à Finge, avec sa grande forêt et ses méandres, aurait dû devenir des terrains de tir pour l'armée. Je voyais une autre installation, et alors j'ai écrit le testament du Rhône. La mélancolie, la nostalgie, l'adieu a remplacé le salut au Rhône. Et quand je l'écrivais, j'étais plein d'espoir. Je me disais, même si tout ce que j'aime autour de moi s'effondre, si j'arrive avec ce qui se perd, avec ce qui va entrer dans la nuit, à écrire un beau poème, à écrire un livre qui dise ma pensée et mon cœur à propos de ce qui est en train de se passer et de ce qui va, disons, mourir ou finir, changer, cette pierre précieuse va transformer ma propre démarche existentielle et je ne me poserai plus de questions. Je serai heureux et je pourrai, et tout va s'arranger miraculeusement autour de moi. J'étais plein d'espoir. Et alors, j'ai écrit, et quand je l'ai eu terminé, le livre a été très bien reçu. J'ai eu un petit prix littéraire, mais qui était assez coté en Suisse romande, qui était par des étudiants de Lausanne, Zofing. J'ai eu des admirations de plusieurs personnes, d'écrivains que j'aimais, Charles-Albert Saint-Griat, Gustave Roud, Georges Nicole, Rameau ou d'autres. Mais, au lieu que ce soit le bonheur, l'espoir est devenu le désespoir. C'est comme, à ce moment-là, il n'y a plus rien. On a réussi quelque chose, et puis le monde ne change pas. Et la machine continue encore plus fort, et on a dit ce qu'on avait à dire. Il n'y aurait plus qu'à disparaître dans une fente de la terre qui s'ouvrirait sous nos pas en train de marcher. Et ça a duré une année ou deux, ce sentiment de désespoir. Ça m'a pris si fort que je me suis dit, eh bien, il faut me rallier à ce qui semble la condition humaine normale, c'est-à-dire avoir un emploi, gagner directement sa vie sans dépendre de personne. Voilà ce qu'il faut faire. Il n'y a plus que cet énorme barrage qu'on construit au centre du Valais, qui s'appelle la Grande Dixence, qui reçoit tous ceux qui cherchent un travail et qui a 10 000 emplois, 10 000 situations pour les placer, depuis manœuvre à ingénieur. Je travaillais avec des géomètres, donc, c'est-à-dire ceux qui doivent prendre les mesures de l'œuvre, qui doivent donner les directions de l'œuvre, et alors on creusait des tunnels qui devaient aller d'une vallée à l'autre. Imaginez qu'il y a un tunnel qui commence à Chables et qui va jusqu'à Zermatt, sous les montagnes, et qui de temps en temps sort près d'un glacier, mais pas avec une petite ouverture de ciel, et qui continue. J'ai fait ce voyage sur des wagonnets. Et dans ces tunnels, on travaillait jour et nuit, les équipes se changeaient, et alors j'ai côtoyé toutes sortes de gens, j'ai côtoyé les mineurs qui m'ont beaucoup ému, j'ai côtoyé des maçons, j'ai côtoyé des ingénieurs, et en regardant les gens vivre, ce qu'ils pensaient, ce qu'ils vivaient, ce qu'ils réalisaient, quelle que c'était pour eux leur vie intime et privée, ça pouvait être une misère masquée, sans même avoir la chance d'une angoisse, en ayant simplement un durcissement en eux, une fixation avec des anathèmes ou comme dérivatif, ce qui était alors vraiment très naturel et très courant, la boisson. Et il y avait des exceptions, il y avait des ouvriers qui, eux, faisaient plus de 10 heures par jour même, gagner des primes et arriver à construire un chalet et à construire leur famille. Alors, en ayant le contraste épique d'un immense mur, d'un arrachage des fleuves, les fleuves me semblaient comme des femmes, quelque chose de très féminin, et on les faisait passer d'une vallée à l'autre, comme si on les tirait par les cheveux et qu'on les engouffrait ailleurs. Il y avait une espèce de rapt.
De rapt
qui se passait. C'était comme participer à une grande bataille, mais dans laquelle les petits personnages qui y participent sont d'autant plus minuscules que la bataille est grande et vaste. Et voilà ce que me disait le barrage. Et en somme, la seule réalité qui pouvait faire face au monde, c'était encore, et qui était le plus réaliste, qui était le plus concret, qui était la solution la plus pratique et la plus véridique, face à ça, face à ce monde de l'utile, c'était encore le poème inutile, mais qui porte une signification intérieure et qui peut s'adresser à tout le monde, qui était la vérité. Je passe d'école. J'ai été dans le Val d'Entrona. Je suis resté toujours vers le haut. J'ai escaladé un col assez difficile, une sorte de couloir rocheux et moussu, puis une pente d'herbe très raide, très glissante, le Passo del Coronel. Je n'aurais pas voulu redescendre. Le moindre faux pas m'aurait lancé comme une bille de bois. Des chasseurs se tuent dans ces coins si l'herbe est mouillée. Puis, j'ai séjourné chez les bergers après avoir traversé un pierrier immense, un pierrier de 3-4 heures à le sauter. Chez les bergers, j'ai de nouveau senti le charme du monde. Mais d'abord, avant de les voir, le soir, j'ai vu les étoiles. J'étais ressorti à 10 heures de dessous une pierre où je dormais. La journée avait été très chaude. À présent, la Voie lactée badigeonnait le ciel. On aurait dit un mur. On aurait dit des millions de grains de blé. Le noir de la nuit était bleu, puis blanc, couvert de lumière. Une curieuse pensée m'a traversée. Que le Christ aussi était une petite fourmi dans ses rapports avec nous. Il avait la grandeur de ce que je voyais, mais dans ses rapports avec la création ou le créateur, il était aussi infiniment petit. J'ai toujours boité, en somme, entre deux mondes, entre le monde des nécessités pratiques et immédiates, et puis la vie de l'expression intérieure, et chacune demande presque tout son temps. De sorte qu'il y a un accord très difficile à faire. Ces prés avec ses fleurs d'environ et quelques champs de blé. Les prés étaient beaucoup plus pleins de courbes, pleins de vallonnements. On les a rectifiés pour la production. Et puis au-delà de ces trois arbres en fleurs, entre les rochers où il y a comme des petits murs et des buissons, c'était les vignes que j'ai vues, avec du vin que j'ai bu, qui était tenu par les gens de ce village. Et si vous voyez le coteau de verbier, partout où il y a ces arbres en fleurs, il y a des espèces de petites lignes qu'on voit sur le terrain, c'était des murets, et tout ça c'était des champs de céréales.
Et quand nous sommes remontés aussi vers le barrage, on voyait comme ça sur les versants, oui, ces murets et ces, oui, ces anciennes terrasses de
tout,
culture.
Tout ça était des champs de céréales, et ça faisait comme un tableau de braque, ces taches de couleur comme ça. Et alors, c'est pour ça que j'ai voyagé beaucoup plus loin que si j'étais parti en Amérique, on a passé dans un autre monde.
Oui, puisque maintenant, sur ce versant, on aperçoit un pont, on voit les ouvrages d'art, la route qui serpente pour monter à la station.
Oui, quelques prés, et puis quelques petits troupeaux épars, là. Et puis les villages étaient très ramassés, très noirs et très ramassés. Et alors, les maisons se sont étendues. Pendant plusieurs jours, nous avons erré dans les pierriers. J'ai imprégné une première bonbonne d'eau de vie de lit, tellement fine, que je ne suis quand même pas sûr d'avoir gagné au change avec les genépis. Dans cette course, qui ne m'était plus arrivée depuis des années, et jamais avec cette violence, j'ai été obsédé par des pensées érotiques. J'ai voulu les chasser, puis je les ai laissés m'envahir, circuler avec leurs variations continuelles sous mon crâne. J'étais bien quand même à cause d'une chose surtout, le bruit des eaux. Il y avait l'air, le vent, la satisfaction des plantes, le plaisir de boire une goutte de thé. Mais surtout, malgré toutes ces pensées, malgré moi, malgré cette déliquescence intérieure confuse, oppressante, sans critère extérieur qui m'avait donné un sentiment de désespoir et d'ignorance, avant de partir, j'étais bien. Cette région de montagne a gardé toutes ses eaux. Le barrage est beaucoup plus bas. Les cascades blanches jaillissent des rochers, changent de piste. On voit partout leur sillage, leur humidité, leur ficelle d'eau. Et puis, dans le creux des vallées, sous les gorges, les torrents bouillonnent, gros, épais, musculeux. On a de la peine à les sauter. Couleur de menthe, couleur de lait. Sur un pâturage, je les voyais s'étaler et engendrer des rives d'herbes très vertes, très douces, avec une abondance de myosotis roses, bleus, des pâquerettes blanches, des boutons d'or. La terre chatoyait. Je croyais voir des épousées dans leurs robes, des paysannes endimanchées décorées avec leurs atours et leurs peaux si fraîches, leurs couronnes, et leur corps, et leur galbe. Je me surprenais à prononcer à haute voix, belle et superbe et magnifique jeune fille, je buvais l'eau de la rivière.
Couru après ou chercher le paradis perdu.
C'est-à-dire, à un moment donné, on ne peut pas s'empêcher de le chercher parce qu'il est à la fois en nous, il est à la fois promis et on ne sait même pas quelle est la dimension de notre vie. Mais il y a une vérité qu'on touche et qui est comme insaisissable. Si on la touche, on fait la terre, elle disparaît. Et si on se met simplement, sans y penser presque, mais disons dans un état de réceptivité, tout à coup, on est là. Je pense qu'on ne peut pas vivre sans une foi.
cette foi, pour vous, c'est laquelle exactement?
Disons, je dirais que je ne séparerai pas la poésie de ce qui est religieux. Je me dis, la poésie est l'expression naturelle de la création, et l'expression religieuse est l'indication que cette création a encore une autre dimension, invisible, et que ce monde est double. Il y a un autre monde qui vit, de sorte que je pouvais être d'accord avec Gustave Roud, quand il rencontrait un oiseau, cet oiseau pouvait lui parler des morts. Et j'ai vu aussi, dans ma propre parenté, les sources d'eau suivant comme elles coulaient, pouvoir donner presque une nouvelle de parents qui étaient très éloignés, qui étaient partis gagner leur vie en Amérique. On avait le sens, disons, d'un autre monde qui est bien le même que celui-ci, mais qui nous échappe. On touche une réalité et là, tel ou tel rapport extérieur avec nous, elle plonge encore ailleurs avec une autre réalité. C'est presque comme si la vie, notre propre existence n'était qu'un rêve par rapport à la vie réelle qui se manifestera peut-être après notre mort. Instinctivement, on fait un choix, on fait un pari et on choisit ici même et maintenant d'essayer de comprendre que le paradis existe, il est en nous, simplement on ne s'en aperçoit pas, ou on s'en aperçoit que par instant où tout d'un coup un visage humain, un être, un arbre en fleurs, un oiseau qui passe, un frémissement de feuilles, des pétales d'un arbre qui tombe. Sur le moment, on se dit, mais tout est là. Et puis, mais à peine qu'il y a eu cet ébranlement, ça a déjà disparu. D'où la nécessité, disons, d'écrire pour recréer en vous cette espèce de mouvement et cette espèce de possibilité de surprise. J'aurais simplement aimé vivre parmi les paysans. Je ne dis pas les usiniers de la terre, ceux qui avaient un corps et non des machines, un corps, le leur, qui était aussi des corps, des bêtes, des fumées, de l'herbe. Avant-hier, j'étais à Charles. J'ai fait ma première promenade à travers les prés. J'étais tout surpris de voir deux chevaux qui labouraient. Quelle magnifique force vivante, quelle propulsion dans la terre noire. Et puis de loin, sur les prés de l'autre versant, quand je regardais le petit groupe d'hommes et d'une femme qui raclaient et nivelaient le champ, les chevaux comme des jouets en bois et les gens comme des oiseaux qui voltigent par terre. Quelle curieuse impression j'ai eue de nouveau. La vie a une autre dimension dans notre regard. Et le monde entier peut y être heureux, comme il ne l'est pas en réalité, ou dans sa fausse réalité. J'ai aussi senti bien concret le paradis perdu des paysans. Auparavant, j'avais traversé un village. J'avais aperçu une fumée glisser d'un toit et se perdre, sans rencontrer comme dans le temps, dans l'éternité, toutes ses voisines pour former un écheveau de brume, un étang bleu très léger, un anneau de ciel qui sentait la piquette du charbon de bois, l'écorce. Et le cri des coqs perçant tous les jardins, donnant l'écho du lointain à 10 mètres de toi, et les chats sur la planche. J'ai compris que je n'avais pas avalé le progrès. qu'il fallait que je me venge de toute façon. Vous avez vu cette curieuse photo?
Qu'est-ce que c'est?
Oui, c'est le squelette d'une biche. On voit la tête dans le tronc.
Comment ça se fait?
Voyons, on voit la tête. Eh bien, tout simplement, à la fin de l'hiver, au printemps, elle a voulu prendre des petites écorces fraîches ou des petites brindilles plus fraîches à l'intérieur de l'arbre. Et elle est montée sur la neige. Puis pendant qu'elle était en train de manger, la neige qui faisait un tas s'est effondrée sous son poids et puis elle est restée suspendue. Et on l'a retrouvée morte comme ça. Donc imaginez l'hiver et imaginez la neige. Vous savez, vous voyez quand on sort dans les maisons où il y a un tas de neige, 50 cm de neige, elle est plus ou moins dure après des jours et des jours. On monte, puis tout d'un coup, elle cède sous le pied, n'est-ce pas ? Il y a un vide qui se produit. Elle avait introduit, en se tenant sur une neige ferme avec les pattes de derrière, elle s'y était introduite pour manger. Quand ça a lâché, elle a été pendue. C'est vraiment les drames de la vie.
Oui. Quelqu'un faisait remarquer une fois que, à propos de votre correspondance avec Gustave Roud, cette correspondance qui a duré des années, puisque oui, vous avez commencé à correspondre en 1939,
oui.
Ensemble. Je crois que c'est l'une des personnes qui a fait la préface à l'édition de cette correspondance. Faisait remarquer que l'une des choses qui vous unissait, Gustave Roud et vous, c'était cette sorte de recherche ou de côtoiement de la ligne entre la vie et la mort. Il y a comme ça une présence dans vos lettres communes,
oui.
Vos lettres l'un à l'autre, de la mort, d'une interrogation sur ce que c'est que ce passage d'un moment à l'autre, ce qui se passe.
Oui, puis c'est comme si la mort était une partie de la vie. Soit celle qui est en train de nous arriver, soit celle des autres. La mort est comme une partie de la vie, on voit les gens mourir, on voit les gens naître, et il y a, ce va-et-vient, et puis qui correspond au visible et à l'invisible. Il y a notre vie visible et il y a notre vie invisible qui existe aussi dans nos pensées, dans nos souvenirs, dans nos cœurs, et dans ce qui se cache aussi derrière les apparences. Et alors, la mort est comme, peut par moments sembler comme un grand voile qui va se déchirer pour montrer un autre aspect de la vie et qui sait plus réel que celui-ci. C'est comme si la mort elle-même pouvait aussi être une naissance. Et quand on se pose la question, est-ce qu'on est avant nous où on était, n'est-ce pas ? On était déjà pris dans un mouvement, n'est-ce pas, de génération et de vie. On porte en nous des milliers d'années, et alors on est, puis ensuite, il y a ce qui arrive chaque jour, c'est le sommeil et c'est la nuit, et là il arrive de nouveau un sommeil cette nuit, et avec quel rêve, quelle présence, quelle autre dimension ce que le monde va nous donner. Et alors ça semble une chose à la fois terrible, familière, douce, qu'on peut à la fois craindre, et en même temps qu'on peut espérer.
Ne voudrais pas que la chose que je trouverais la plus cruelle, c'est si on devait dire à quelqu'un, vous ne mourrez jamais. Je trouverais que ça serait très cruel de lui dire, vous ne mourrez jamais. Donc vous ne retrouverez plus ce que vous avez perdu. Vous n'aurez que cette dimension, celle-ci. N'est-ce pas? L'ennui, la mort est comme le sel de la vie qui rend infiniment précieux le petit espace de temps où, comme je l'ai dit, les années sont si courtes et les journées sont si longues. Ce qui veut dire qu'il y a un diamant qu'on ne sait pas voir. Et s'il n'y avait pas la mort pour nous rappeler que l'instant est extrêmement précieux, il est possible que, disons, qu'on périrait d'ennui.
Puis nous avons quitté l'abbaye de Chables et la vallée de Bagne en suivant la ligne du petit train rouge qui serpente à flanc de montagne. Laissez derrière nous Martigny, ville adossée aux terrasses plantées de vignes, dans la vaste vallée où le Rhône fait un coude. Nous avons laissé les sommets, la majesté des sommets éclairés de neige et de soleil, derrière nous. Avec dans la bouche un goût fruité et tendre de petite arvine, dans l'oreille l'accent qui traîne un peu, la mélopée du conteur, entre les mains des livres, le gros volume de correspondance avec Gustave Roude, récit, confession, journal tout à la fois, et un pamphlet contre les dévoreurs de paradis, intitulé « Les maquereaux des cimes blanches », ces deux livres publiés aux éditions Zoé, et puis d'autres encore, des poèmes, des essais, avec dans la tête des images, les fleurs au printemps, et un regard malin, et un sourire sous la moustache. Au revoir Maurice Chapa. Prise de son en Valais, Pierre-Adrien Sémoreau, de la radio suisse romande, mixage Claude Jubier, une émission de Geneviève Ladouès réalisée par Anna Schmutz, Maurice Chapa, notre vie et le pays où l'on n'arrive jamais.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 13 août 1994.